Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bonjour, bienvenue sur Radio Immo, sur Radio Territoria. Je suis absolument ravie de vous retrouver au CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone. On est en direct du Grand Palais, comme vous pouvez le voir. On est vraiment sous la verrière, donc on est ravis d'être là. C'est la première fois que ce salon a lieu dans cet endroit aussi emblématique. On est ravis d'être là pendant 3 jours avec nos antennes. Et je vous rappelle que ce salon est au place la neutralité carbone, vraiment au cœur des discussions sur le bâtiment, la ville et les territoires. Et ce salon est placé sous le haut patronage du président de la République. On va parler tout de suite bas carbone, on va parler construction bas carbone, on va voir quels sont les leviers concrets justement pour une massification responsable avec cette table ronde organisée par Prestataire Certification. Petit rappel peut-être de Prestataire Certification, c'est un organisme certifié de certification accrédité par le COFRAC, c'est un des 4 organismes, donc le COFRAC c'est le comité d'accréditation français, et donc Prestataire Certification certifie à la performance énergétique, environnementale et sociale des bâtiments. J'accueille 4 intervenants avec moi en plateau. Bonjour Rodolphe Barrault.
Bonjour.
Vous êtes responsable qualité et référentiel justement chez Prestataire Certification. Ravi de vous accueillir. Bastien Bouteloup, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur R&D et ingénierie pour Woodeum.
Exactement.
Alors Woodeum, c'est la marque bois de Cogedim, une filiale d'Altarea.
Exactement.
Donc concrètement, vous êtes le leader français, on peut dire que vous êtes le leader français.
Un des leaders
de la construction de bois.
Exactement.
Avec nous également aussi Alan Bragado, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes directeur technique et opérationnel de Regeneo. Alors vous, votre métier, c'est d'accompagner les entreprises à définir, puis à déployer la stratégie de contribution climatique.
C'est ça, en complément de leur trajectoire de décarbonation pour atteindre à terme un équilibre entre nos impacts et la capacité de les absorber.
Et enfin, Guillaume Meunier, bonjour. Vous êtes consultant bas carbone pour le hub des prescripteurs bas carbone. Et donc ce hub, je précise qu'il est piloté par l'Institut français pour la performance des bâtiments.
Bonjour et enchanté.
Bonjour, ravi. Merci d'être avec nous, messieurs. Alors, je l'ai dit, on va parler construction bas carbone. On va peut-être commencer par un état des lieux, justement, avec vous, Guillaume. Où en est réellement la construction bas carbone en France? Ça fait des années qu'on en parle. C'est vrai qu'il y a eu quelques changements. Vous allez nous éclairer, justement, sur cet état des lieux.
Alors, je vais faire très bref, mais je voudrais juste rappeler un peu de chronologie, parce qu'on a tendance parfois aussi à dire que le bas carbone, c'est tout nouveau.
Ah non.
Rappeler INIES, la base de données française, existe depuis 20 ans. Le label Le Plus C'est Moins, qui était préfigurateur, ça fait plus de 10 ans qu'il a été lancé. Et l'Aéro 2020, ça fait 5 ans qu'on y réfléchit et 3 ans qu'on l'applique. Donc c'est effectivement assez ancien. Et parce qu'il y a 10 ans, bas carbone, en vrai, on n'en parlait pas tant que ça. Ensuite, si on dézoome avant de parler de la France, à l'échelle mondiale, là en ce moment même, on est en train de discuter de la définition de ce que c'est un bâtiment net zéro émission. Et on est en train de trouver une définition internationale, alors avec des mots un peu pompeux, etc. Mais ça devient une définition internationale. À l'échelle européenne, l'année dernière a été votée une fameuse loi sur la performance du bâtiment. Et concrètement, il dit en 2030, tous les bâtiments neufs, et alors c'est un peu plus flou sur l'existant, mais tendra vers la neutralité carbone, donc en 2030 pour toute l'Europe. Hein, et après, si on zoome sur la France, effectivement, il y a 3 pays qui ont en Europe qui ont des réglementations un peu similaires. Mais on peut dire qu'on est un peu les précurseurs.
Le bon élève.
On est les bons élèves, avec en plus une Aéro 2020 qui est très ambitieuse et qui a cet avantage incroyable de donner, on parlait de trajectoire enfin à l'instant, sur le trajectoire, et donne une vision assez claire de comment on va construire dans le futur. Donc à un moment donné, ça a mis en branle tout le monde en disant on va décarboner le monde du bâtiment, le monde du neuf. On espère que ça va suivre pour la rénovation. Et voilà comment on va faire. On vous propose une méthode et on y va et on se lance sur le sujet. Avec ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'État a plutôt bien anticipé les choses. C'est que les 3 premières années là, qui se sont écoulées, globalement, l'Aéro 2020 disait « Allez, vous construisez à peu près normalement, vous faites des efforts et vous allez passer l'Aéro 2020. Par contre, apprenez à faire des ACV, apprenez la méthode, allez-y, lancez-vous. » Et puis les difficultés commencent depuis peut-être les difficultés. On pourra en discuter, mais les sujets commencent vraiment à partir du 1er janvier 2025. Et puis, il y aura une évolution comme ça tous les 3 ans, 2028, où de mon point de vue, c'est peut-être un peu là le gap qui va se faire un peu sérieusement en 2028.
Alors, quelques petites précisions juste pour nos auditeurs. Donc, la RE 2020, c'est la réglementation environnementale et ACV, c'est l'analyse de cycle de vie du bâtiment.
Faut m'arrêter, c'est consultant, parfois je dis des choses bizarres. Et puis donc on a ce contexte là où, et on sent hein, vraiment quand on discute, les industriels s'y sont embarqués, voilà, le Bastien le dit, il y a toute la filière globalement s'y est mise. Avec ce petit backlash en ce moment mondial, ça devrait échapper à personne, qui arrive aussi dans le bâtiment, où on voit en ce moment quelques difficultés qui émergent. Alors il y a le rapport Rivaton qui disait en substance, il faut qu'on divise les ambitions de 2028 par deux. C'est un peu gênant quand on discute, c'est tous les industriels qui ont fait des investissements, tout la filière qui s'est dit bah, je vais apprendre et je vais me former. C'est un peu gênant de se dire j'ai des ambitions qui arrivent dans 3 ans, on les réduit.
Est-ce qu'on assiste à un retour en arrière?
Alors après, une fois que vous avez ce rapport et quand vous discutez avec des acteurs, et je trouve que le CIPCA est vraiment, en fait tout le monde est à fond, c'est je vous ai dit, je parle des industriels parce que les industriels, il faut bien compter, c'est des investissements sur des dizaines et des dizaines d'années, ça se compte.
C'est du temps long, ouais.
Et les industriels, ils se disent, mais non, mais moi, c'est bon, j'ai acté, c'est bas carbone, c'est européen, c'est international, donc j'y vais, je fonce. Là, si vous discutez avec n'importe qui ici, vous dira, plein de gens vous diront, c'est pas si facile que ça, c'est compliqué, mais tout le monde est partant. Surtout, l'idée principale, c'est quand même, on essaye de rendre le monde meilleur pour nous, dans le futur, et nos enfants. Donc, le concept même de construire bas carbone, tout le monde y adhère. Après, plus ou moins vite, avec plus ou moins de difficultés, voilà.
Et est-ce qu'on peut dire que les récentes vagues de chaleur hein, qu'on a tous subies, les projections climatiques aussi que nous avons, est-ce qu'on peut dire que cela redéfinit, on va dire, les priorités, accentue les priorités du secteur concernant le bas carbone?
Alors, ça rajoute une complexité. On peut parfois voir, il peut y avoir une antinomie parfois entre le confort d'été, enfin l'inconfort d'été, c'est-à-dire vraiment l'inconfort, et le bas carbone. Et donc en ce moment, on est en train justement, parce que peut-être on n'a pas assez parlé avant de l'inconfort d'été, on essaye tous ensemble de résoudre une équation un peu compliquée. Je veux que mon bâtiment il soit confortable l'été, évidemment qu'il ne me coûte pas trop cher à chauffer l'hiver. Déjà, c'est pas si simple que ça. Et en plus, je veux construire bas carbone. Donc on essaye de résoudre ça, mais effectivement, ce point-là est important de l'inconfort d'été.
Bien sûr, les bouilloires thermiques.
Les fameuses bouilloires thermiques. Et un dernier point, ce qui est vraiment intéressant, ce qui se passe, c'est qu'on est même en train de réinterroger l'architecture. Alors moi, c'est mon côté architecte, hein, je suis architecte ingénieur. C'est l'architecture d'un bâtiment bas carbone, c'est pas tout à fait la même que celle d'avant. Et tout le monde est en train de se poser la question, mais finalement, et les architectes hein, font ce travail, mais les ingénieurs, les promoteurs, enfin, toute la filière se dit, finalement, il y a une nouvelle architecture qui émerge, l'architecture moderne où un bâtiment qui fonctionnait à Paris, fonctionnait à New York, fonctionnait partout. On commence à se dire, effectivement, ça n'existe pas. Ces grandes façades en verre qu'on a fait pendant très longtemps, elles posent question. Et je trouve qu'il y a un mouvement très sain qui est pris par tout le monde. Il faut que je construise différemment. Il faut que j'ai des nouvelles méthodes et ça fait émerger des acteurs, etc. Donc c'est un bouillonnement passionnant qui est en train d'émerger, où on est tous en train, et vraiment ici le cadre ne fait que montrer cela.
Alors vous êtes très positif, dernière question, est-ce qu'il y a quand même des freins qui existent et qui sont là?
Alors pour moi le plus grand frein c'est l'apprentissage.
On n'est pas d'accord là-dessus. Hein.
Alors on pourra discuter du coup, il y a en partie le coût, mais c'est pas le plus gros frein. Le plus gros frein, c'est que, ça, comme j'ai dit, ça bouleverse la manière de produire du logement, des bâtiments. Et pour un acteur qui a commencé à s'y intéresser que en 2022, voire en 2023, parce qu'il était encore sous l'ancienne règle, c'est pas facile. Je parlais tout à l'heure, j'ai fait exprès d'insister sur les industriels où c'est des investissements longs. C'est pas facile de passer de j'ai construit comme avant. Moi, quand j'étais jeune architecte, c'était facile. Maintenant, un jeune architecte, il doit se poser 100 fois plus de questions que je le faisais il y a 10 ans. Donc, pour moi, c'est le plus gros frein. On peut parler des coûts.
Oui, parce que là, vous parlez des coûts pour les gros groupes, les gros constructeurs qui construisent massivement. Moi, je pense aux plus petits constructeurs. C'est vrai que j'en interview pas mal et c'est vrai que les retours que j'ai face justement à cette réglementation très contraignante en France, alors après, c'est très bien, vous l'avez dit, on est bon élève, mais c'est le coût qui revient en premier. Je vous le disais hors antenne, hein, Olivier Salleron, le martèle aussi, hein, le président de la FFB, de la Fédération Française du Bâtiment. Est-ce que pour vous, voilà, c'est pas le premier frein? passer.
Alors, on peut pas dire il y a pas de question de cause, parce que je suis en train de dire, c'est que le premier frein, c'est l'apprentissage. Dans les études qu'on mène, on a démontré que on pouvait construire au seuil 2028, alors quasiment aujourd'hui, mais à quelques années près, sans surcoût, à zéro surcoût.
Certains le font.
Voilà, et certains le font. On pourra en parler un peu après. Par contre, effectivement, ça peut entraîner des surcoûts, et il y a un contexte global, la guerre en Ukraine, le coût du pétrole, etc. Et en fait, le coût strict de l'Aéro 2020 n'est pas incomparable au coût de la RT 2012, l'a été à l'époque, hein, c'est ce que rappelle le syndicat des économistes, c'est globalement, c'est des coûts similaires, avec une forme Malgré l'inflation. Après, effectivement, il y a une période d'apprentissage, et ça, il faut qu'on y aille tous. Mais après, oui, il y a des questions de coûts, qui sont souvent, et ce qu'on voit de manière globale, c'est on attribue ces coûts-là parfois un peu hâtivement à c'est l'environnement, c'est la règle, c'est l'Aéro 2020. Et j'ai un exemple assez concret, c'est au tout début sur les règles quand vous dessinez des bâtiments, sur la règle handicapée. Au début, faire du logement, c'était très compliqué. Et une fois que tout le monde s'était approprié ces règles, avait compris les règles, on a commencé à pouvoir faire des logements qui intégraient ces contraintes et du coup qui rendaient accessibles. Et on a appris, au début c'était très compliqué, on a appris à le faire, et maintenant ça paraît normal de faire des logements accessibles. Et on peut se dire, on peut encore se poser des questions, mais il y a une forme d'apprentissage qu'on est en train de vivre, et peut-être moi mon seul regret, c'est qu'on aurait pu l'anticiper un peu plus, parce que ça fait déjà, c'est pour ça que je commençais par la chronologie, ça fait déjà 3 ans qu'elle s'applique dans le dur. Voilà. Et après, oui, il y a du coup, il y a des manières de revoir. Effectivement, les entreprises, et vous avez raison, les petites entreprises, une petite entreprise, apprendre ce que c'est que le carbone, c'est pas. Et là où les grands groupes ont cet avantage.
Bien sûr.
Donc il faut embarquer, et on connaît tous, hein, les sociétés d'architecture, c'est plutôt que des petites sociétés.
Ouais, hein, exactement.
Plutôt une personne, voire deux. Et quand un architecte doit produire du logement, faire la gestion administrative, gérer une équipe, en plus on lui rajoute cette contrainte-là, il peut trouver que ça fait beaucoup, et il faut qu'il se forme, etc. Mmh. Mais globalement, on y va tous, quoi.
Alors on va rentrer un peu plus dans le détail, les détails techniques. Qu'est-ce qui rend un projet réellement bas carbone aujourd'hui en France? Avec vous, Bastien et Alan, quels sont les leviers les plus efficaces justement pour réduire l'empreinte carbone dès la phase de conception? Parce que qu'on soit clair, hein, un bâtiment bas carbone, ça se prévoit avant la construction, en phase de conception.
Bon, je vais commencer. J'aimerais juste faire un petit rappel avant de rentrer dans la technique. C'est qu'un bâtiment bas carbone, on oublie d'en parler souvent quand on parle de bas carbone, on pense tout de suite aux matériaux, à l'énergie. Mm. Mais un bâtiment bas carbone, c'est avant tout un bâtiment qui remplit son usage. Et un bâtiment
Bien
qui
sûr.
Remplit son usage, c'est un bâtiment qualitatif. C'est un bâtiment qui répond aux besoins de la société. On pourra faire le bâtiment le plus frugal qu'on veut, le plus biosourcé qu'on veut, le plus stockeur de carbone qu'on veut. Si, à la fin, il ne sert pas à la société, ce sera toujours trop de carbone par rapport à ce qu'on en fait. Donc, il y a ce petit point, ce prérequis, je dirais, que le bâtiment bas carbone, c'est un bâtiment qualitatif, peu importe ce qu'on en fait, du logement, du bureau.
Donc, tout au long de sa vie, en fait, dès la conception, l'usage, important, vous précisez, et puis aussi sa fin de vie.
Exactement.
Et sa démolition aussi.
Sa fin de vie.
Si jamais il y a
démolition.
Démolition,
justement, un bâtiment qui remplit son usage, normalement,
ne doit pas être démoli.
Donc, il faut aussi penser à ça. Quand on pense à la démolition, on réfléchit aussi à l'usage. Il ne faut pas oublier que notre métier premier, c'est quand même de répondre à un besoin sociétal. Mm. Une fois qu'on a bien intégré ce prérequis, on applique une méthode que j'appelle une méthode qui est une fusée à 3 étages. Qui sont éviter, réduire, contribuer, et bien dans ce sens-là. C'est-à-dire que, avant de penser aux matériaux, de réfléchir à quels matériaux on va utiliser, déjà il faut éviter d'utiliser trop de matériaux. Donc on va réfléchir à l'usage, comment est-ce qu'on peut mutualiser des usages pour éviter justement de trop construire ce dont on a vraiment besoin.
On parle beaucoup de la mixité des usages d'ailleurs.
De la mixité des usages par exemple, mais c'est aussi dans les formes des bâtiments. Il y a plein de points auxquels on peut réfléchir. C'est dans les systèmes constructifs aussi, ça se réfléchit. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut réfléchir, mais l'important c'est d'abord d'essayer d'éviter d'utiliser de la matière, d'éviter d'utiliser de l'énergie, et donc in fine d'éviter d'émettre du carbone. Ensuite c'est réduire. Donc quand on a éviter de, le matériau, on va quand même devoir en utiliser. Ce matériau-là, on va aller chercher les matériaux qui ont la plus faible émission carbone, donc réduire l'intensité carbone de ces matériaux. Bien sûr, on peut rester sur les matériaux traditionnels, aller chercher des matériaux traditionnels qui ont commencé à innover, comme les bétons à faible empreinte carbone. Ou alors, on peut aller sur des matériaux qui étaient traditionnels avant, qui sont considérés comme innovants aujourd'hui, comme par exemple
le bois
ou la terre crue. Et là, on va réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Et enfin, contribuer, mais je pense que Alan pourra en parler mieux que moi après, contribuer à la neutralité climatique au-delà du périmètre du bâtiment. Et ça, on peut le faire en travaillant sur tout projet ou à l'échelle d'un même projet, en stockant du carbone sur ce projet. Et donc là, je laisse la parole à Alan qui l'expliquera.
Oui, complètement. Merci, Bastien, pour expliquer cette troisième étape aussi de la fusée. C'est que quand on parle d'immobilier bas carbone, on parle souvent, comme tu l'as dit, de matériaux, de performance thermique, de consommation énergétique. C'est très bien, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, en fait, ça ne suffit plus. Un projet bas carbone, c'est un projet de territoire. C'est un projet qui contribue à la résilience de la ville. C'est un projet qui contribue à régénérer les écosystèmes qui l'entourent. Donc, au-delà de ces impacts, un acteur de l'immobilier doit aussi proposer des solutions qui possèdent des impacts positifs.
Pour embarquer toutes les parties prenantes.
Complètement. Et ça ne sert à rien. C'est quand même très dommage si un immeuble très performant se retrouve complètement isolé sur un territoire qui est fragilisé. Et donc, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est que le foncier, que ce soit sur la parcelle ou même en dehors, ça ne soit pas uniquement un terrain, mais vraiment un support du vivant.
C'est un écosystème, en fait.
Exactement. Le sol, ça rend des services écosystémiques incroyables. Ça séquestre du carbone, ça infiltre de l'eau, ça recueille à la biodiversité, ça crée des îlots de fraîcheur, des îlots de fraîcheur en été.
Et on voit d'ailleurs un attrait de plus en plus intense des collectivités.
Ah, complètement. En plus, avec les municipales qui arrivent l'année prochaine, qui se profilent, en fait, proposer ce type de solution très concrète, très visible, du coup, elles peuvent en attendre d'autant plus. Donc, en fait, l'idée d'un acteur de l'immobilier, c'est vraiment de se positionner comme un acteur du territoire, un acteur qui participe à la régénération des territoires. Et donc ça peut se faire via le financement de puits de carbone locaux qui peuvent être des projets de boisement, de reboisement, des projets de nouvelles pratiques agricoles, des projets d'agriculture régénérative ou des restaurations de zones humides. Donc tout ça, en fait, l'idée dans cette démarche-là, éviter, réduire, contribuer, c'est très bien, il y a un gros socle, c'est essentiel, mais c'est pas uniquement d'être un acteur de l'immobilier bas carbone, c'est vraiment d'être un acteur de la ville en allant chercher ce troisième pilier.
Est-ce que vous voyez une prise de conscience des habitants également? Parce que les usagers sont quand même les plus concernés par l'écosystème bas carbone au final.
Complètement, et participer aussi à cette régénération d'écosystèmes, ça rend des services écosystémiques en termes de social, en termes de commerce, en termes de bien-être auprès des habitants. Donc en fait, c'est tout un système où on englobe toutes les parties prenantes dès qu'on a cette vision holistique en fait d'une conception bas carbone.
Moi, j'avais une question, Bastien, vous parliez donc de éviter, réduire, contribuer, peut-être une question pour vous deux. Est-ce que construire bas carbone, concevoir bas carbone, ça demande moins d'énergie mais plus de matière grise?
Tout à fait. Guillaume l'expliquait très bien tout à l'heure. Le plus gros frein, c'est celui des compétences dans lesquelles il faut investir. Vous citiez le frein du surcoût, mais en fait, à partir du moment déjà où on a les compétences, on arrive à maîtriser ce surcoût. Il reste un surcoût, mais on arrive à le maîtriser et celui-ci arrive dans une enveloppe où ça devient un des sujets, mais comme dans chaque projet immobilier, il y a des milliers de sujets à traiter. Donc la matière grise est la première
compétence à avoir.
La première compétence à avoir, mais surtout il faut intégrer très en amont du projet parce que c'est là que ça se joue. 70% du poids carbone d'un bâtiment est figé au moment du dépôt de permis de construire.
Ouais.
Et au moment du dépôt de permis de construire, on n'a pas effectué 70% des études qu'on va faire sur le projet. Donc il y a un effet levier qu'il ne faut pas oublier.
Bien sûr.
Et pour cela, il faut mobiliser les bonnes compétences dès le début. Et il faut former, ça demande une formation des équipes et de l'investissement, parce que l'investissement, on parlait de l'investissement industriel, c'est pas forcément que dans les machines, il y a aussi un investissement dans le temps et dans la formation des équipes, parce qu'on ne peut plus construire comme on construisait il y a 20 ans.
Donc est-ce qu'on peut dire qu'on peut concilier neutralité carbone avec les réalités de financement dans un contexte, vous l'avez dit, hein, où les coûts des matériaux biosourcés sont quand même plus élevés? C'est possible.
Au-delà de savoir si c'est possible, je pense qu'on n'a pas le choix, déjà climatiquement, physiquement, on n'a pas le choix, et que c'est tout à fait possible à partir du moment où il y a un élan collectif, une visibilité, une lisibilité et une volonté de toutes les parties prenantes, parce qu'on ne peut pas faire un bâtiment bas carbone tout seul, qu'on soit promoteur, architecte, bureau d'études ou entreprise.
Concernant l'écosystème dont vous parliez, l'écosystème bas carbone avec l'usage du bâtiment, est-ce que tout, absolument tout, peut se prévoir en amont? Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable?
Complètement. Après, derrière, cette mutualisation des usages dont tu parlais, Bastien, moi, je rebondis aussi sur ce côté de sensibilisation. C'est super important, en fait, sensibiliser les acteurs de l'immobilier, les collectivités.
Et qui doit sensibiliser?
Nous, les bureaux d'études environnementaux, les maîtres d'ouvrage, tout l'écosystème immobilier doit être sensibilisé et doit sensibiliser. En fait, créer de l'immobilier bas carbone, c'est aussi créer des opportunités, de la valeur commerciale en étant un axe de différenciation, une valeur environnementale, forcément une valeur stratégique pour les ambitions RSE des entreprises, et aussi une valeur politique d'ancrage territorial, en fait, là où on rejoint aussi mon propos de tout à l'heure concernant les collectivités.
On en revient aux prérequis de tout à l'heure. Un logement bas carbone, c'est un logement désirable. Et c'est le fait de vivre dans un logement qui est très agréable à vivre, dans lequel on pourra par exemple bénéficier de biophilie avec du bois apparent. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est de travailler c'est de vivre dans ces bâtiments-là qui donnera envie à toutes les parties prenantes de se lancer ou de continuer dans le bas carbone.
Alors on va parler de comment passer de projets exemplaires à une logique de massification. Gros sujet. Quels sont les freins pour passer à grande échelle, justement? Alors peut-être Bastien, Rodolphe, qui veut...
Qui veut
commencer, Rodolphe.
Pour rebondir sur les freins, effectivement, principalement aujourd'hui par rapport au retour que l'on a, c'est effectivement le surcoût. Je dirais que le surcoût, il est lié à l'empilement des normes qui ont eu lieu, on va dire, ces 15-20 dernières années où le bâtiment n'avait pas forcément l'habitude de ça. Et la temporalité d'un bâtiment, elle est longue, hein, entre la conception initiale jusqu'à la livraison, on peut avoir parfois 4 ans, 5 ans. Donc c'est long et il y a eu des successions de réglementations qui ont fait que plus effectivement le Covid, les crises, etc. que l'on connaît. Donc un des premiers freins, c'est effectivement ce coût. Et comme on disait, si c'est pas anticipé dès la conception, le surcoût est vraiment là à l'arrivée. Ensuite, il y a aujourd'hui deux courbes qui se croisent, notamment pour la promotion immobilière. Il y a ce surcoût constructif et la difficulté pour les particuliers de pouvoir acquérir des logements, puisque on sait que c'est de plus en plus compliqué. Donc il y a un problème de pouvoir construire aussi, que ce soit pour les bailleurs ou pour les promoteurs.
C'est vrai, les promoteurs expliquent qu'ils manquent de réservations. Ils ne peuvent pas obtenir le prêt au niveau de la banque parce qu'il n'y a pas assez de réservations. Ils font machine arrière. Hein.
Absolument. Donc parfois, effectivement, ce sont les bailleurs qui prennent le relais avec des achats en VFA, mais ça fait partie aussi des freins que l'on a aujourd'hui. Alors le bâtiment est cyclique. Hein, et à un moment donné, il va falloir construire et ces freins vont bien finir par se lever. Après, je rejoins ce que disait Guillaume. C'est avant tout aussi des formations et de l'information qu'il faut diffuser, puisque aujourd'hui des salons comme ici sont très bien pour les gens qui sont à la conception, qui sont à l'ingénierie, mais après le chantier, il faut le réaliser. Il faut le construire et il faut le faire avec des entreprises. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément le même niveau d'information par rapport notamment au carbone, puisque c'est le sujet, mais aux autres sujets aussi. Donc il y a aussi cette partie-là qui est un frein, l'accès à la formation pour les différentes entreprises.
Et j'imagine que vous parlez aussi des petites entreprises. Il y a beaucoup de petites entreprises dans le bâtiment.
Oui.
Et c'est vrai que c'est dur pour eux. Déjà, c'est dur, c'est compliqué. Vous l'avez dit, il y a des contraintes, il y a un millefeuille administratif.
Absolument.
C'est un coût.
Absolument.
Et ils n'ont pas forcément accès à la formation.
Et quand vous disiez les contraintes administratives, il y a effectivement ça. Mais il y a toutes les contraintes pour l'accès au financement des logements. avec un empilement complexe des aides financières qui peuvent être possibles et imaginables, qui sont aussi un frein malgré tout. Et puis il y a aussi les filières, comme disait Guillaume, il faut que les gens s'organisent, il faut que les filières aussi s'adaptent. Je parle par exemple du réemploi, ce genre de choses. Il est assez facile dans les salons feutrés de mettre des normes et des réglementations en disant allez hop, tout le monde doit appliquer cela, mais effectivement ça nécessite beaucoup d'investissements pour les filières et les entreprises de se mettre au diapason des normes et à la temporalité qui est nécessaire aujourd'hui. Et donc il y a parfois du retard à l'allumage entre la théorie et la pratique, donc ça va prendre encore un peu de temps. Les filières s'organisent, mais il y a encore besoin d'un peu de temps pour qu'elles puissent se mettre en ordre de marche. Donc ça fait aussi partie des freins, parce que derrière, les maîtres d'ouvrage qui doivent construire ont effectivement ce blocage des entreprises et des filières qui ne sont pas toujours prêtes pour être conformes au niveau réglementaire et autres. Donc ça, c'est des freins qu'on essaye de lever avec une massification, et c'est là en fait l'essentiel, hein, c'est massifier. Et nous, la certification est un des éléments pour pouvoir massifier. L'avantage des référentiels que l'on a, c'est qu'ils permettent en fait de centraliser les demandes de tout le monde. Aujourd'hui, vous avez les aides financières, vous avez l'État, vous avez les collectivités locales, vous avez les délégataires à la pierre, vous avez les concepteurs.
Il y a beaucoup de monde autour de la table.
Il y a beaucoup de monde autour de la table, et les maîtres d'ouvrage font appel aux certificateurs pour pouvoir piloter et réorganiser en fait tout ça dans un seul et même, on va dire, cahier des charges, si je peux le dire comme ça. Mais un cahier des charges à échelle variable. C'est-à-dire que pour massifier, il faut que tout le monde puisse y aller. Et comme on disait, il y a des petits comme des gros faiseurs. Il faut aussi que les petits puissent y accéder et commencer à mettre le pied à l'étrier. Et donc les référentiels qui sont à échelle variable, on peut aller sur tel axe, sur tel thème ou autre, avec un critère quand même principal qui est le gain thermique et la performance carbone. Mais donc à échelle variable. Donc le référentiel répond à tout le monde sur des performances moindres ou des performances très élevées avec des opérations remarquables.
Donc on peut dire que la certification, c'est un moteur de massification.
Absolument.
En termes de confiance, en termes de connexion, en termes d'attractivité, de crédibilité.
Exactement. La crédibilité, elle est avec l'accréditation COFRAC, qui garantit en fait aux maîtres d'ouvrage une indépendance et une impartialité de notre part. Tous les maîtres d'ouvrage seront traités de la même façon. Il y aura un processus qui sera unique pour tout le monde et qui sera le même. C'est aussi un facilitateur pour les maîtres d'ouvrage. On a souvent l'étiquette un peu d'enquiquineur, si je peux le dire, mais en réalité, on est plutôt là pour faciliter.
Très réglementé.
Et proposer aux maîtres d'ouvrage et l'accompagner dans la faisabilité de ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre, de la conception jusqu'à la livraison. On va surveiller cela. Et évidemment, la certification est une simplification pour l'accès aux aides financières derrière pour les maîtres d'ouvrage. Ils savent qu'en obtenant une certification, ils auront automatiquement l'accès aux aides. Donc c'est une simplification aussi en passant par un organisme de certification.
Est-ce qu'on peut imaginer que la certification prenne le même chemin que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, en devenant justement obligatoire ?
Alors, ce serait un des rêves pour nous, évidemment. Je ne pense pas qu'il faille le rendre obligatoire, parce que tout ce qui devient obligatoire devient contraignant.
Ouais. Mais parfois, on est obligé pour faire bouger un secteur.
Mais les certifications doivent, à mon avis, rester une démarche volontaire. Sinon, comme disait Guillaume, il faut quand même embarquer tout le monde là-dedans. Après, les contraintes, elles sont déjà fortes au niveau réglementaire et au niveau des collectivités locales. On a de plus en plus de demandes locales qui vont au-delà de la réglementation pour accélérer en fait cette décarbonation. Donc le rendre obligatoire, je ne sais pas si c'est la bonne solution. En tout cas, nous, on a forcément des cahiers des charges. La certification va toujours au-delà du réglementaire. On a toujours des avances de phase. C'est ça aussi la massification, c'est permettre aux maîtres d'ouvrage d'anticiper des certifications, des réglementations futures qui arriveront. On est dans tout un tas de comités, tout un tas de projets qui nous permettent en fait d'introduire dans nos référentiels des avances de phase et des réglementations, comme disait Guillaume, sur les aspects 2028, 2031 et même au-delà. Ça permet effectivement aux maîtres d'ouvrage, ceux qui veulent y aller en tout cas, de se mettre déjà en ordre de marche pour les opérations futures.
Est-ce que vous voyez un intérêt qui grandit de la part des acteurs?
Oui,
pour ces certifications?
Oui, parce que en réalité, ils ont besoin d'être aidés et structurés par rapport à tout ce qu'il y a à faire pour eux. On ne se rend pas compte, en fait, un maître d'ouvrage, quand on parle de la conception, enfin même de l'achat du terrain jusqu'à la livraison, tous les intervenants qu'il y a dans l'acte de construire, et le certificateur est un peu le facilitateur. Oui. On vient surveiller en fait pour eux que de la conception jusqu'à la livraison, tout soit en ordre de marche et qu'à l'arrivée, ça correspond réellement à leur marché, à leurs besoins et aux futurs acquéreurs ou futurs locataires. Donc on a de plus en plus de demandes par rapport à ça parce qu'il y a besoin de se structurer et de s'organiser. Et ils savent qu'en passant par un organisme qui est accrédité par le COFRAC, ils savent que l'organisation, elle sera là, que l'indépendance, elle sera là, l'impartialité sera là, que le contrôle sera là, en toute indépendance et sans, voilà, faciliter quoi que ce soit.
Est-ce qu'on peut pousser votre raisonnement et dire que vous êtes un tiers de confiance ?
Absolument. Le certificateur est un tiers de confiance, même si on est rémunéré par le maître d'ouvrage, hein, faut bien qu'on soit aussi payé par quelqu'un. Mais on a un tiers de confiance et l'impartialité du COFRAC garantit ça. Hein. À l'arrivée, il regarde systématiquement comment on certifie et dans quelles conditions, de façon à ce que ça perdure. Et c'est très important pour nous de garder ce gage de confiance. C'est aussi pour ça que les maîtres d'ouvrage passent par un certificateur pour être effectivement ce facilitateur et ce gage de confiance tout au long de l'opération.
Bastien, comment, face à la complexité, hein, on le voit, de ces projets bas carbone, comment on peut reproduire les méthodes vertueuses à grande échelle ?
Alors, je pense que c'est le plus compliqué, en effet. Passer du projet... Ouais. À l'échelle de l'entreprise, à l'échelle du territoire.
La réplicabilité des projets, comme on dit.
Exactement, parce que ce sera toujours intéressant de faire un projet très bas carbone, mais si finalement c'est 1% de notre production qu'on va chercher en RE 2020 niveau 2031 pour faire 99% du reste en RE 2020 niveau 2022 au minimum réglementaire, bah finalement on n'aura pas actionné le plus gros levier qui est celui de la massification. Donc c'est forcément le plus compliqué. C'est le plus compliqué parce qu'il demande forcément de lever le premier frein dont on parlait, qui est celui des compétences, et de le lever à grande échelle, puisque l'équipe qui aura travaillé sur le premier projet bas carbone exemplaire, c'est pas forcément la même équipe qui va travailler sur les 99 autres, et encore moins si on veut développer ça à l'échelle d'un territoire et d'une entreprise. Donc la formation est une très bonne chose, les process en sont une aussi, telles des certifications pour éviter de faire des bêtises et contrôler tout au long du projet la qualité du projet.
Et on est peut-être moins bon élève en process en France quand même, non ? Un petit peu.
Je sais pas, ça dépend des personnes, ça dépend des cultures, mais moi, la présence d'un tiers de confiance peut aider. Et il y a un autre challenge aussi qui est celui vraiment des territoires, ouais, puisque d'une région à l'autre, on parlait de confort d'été tout à l'heure, typiquement on va pas travailler, enfin ça a tendance à changer,
c'est totalement différent,
le climat remonte, mais un projet dans le sud ne va pas être traité de la même façon qu'un projet dans le nord, les clients ne vont pas attendre la même chose non plus, il faut avant tout répondre à ses besoins clients, donc il va y avoir un contexte tellement différent, un écosystème différent avec des entreprises, des bureaux d'études qui ne seront pas forcément non plus au même niveau de connaissance sur les sujets bas carbone, donc il y a une nécessité d'adapter la méthode à chaque territoire en faisant monter les gens en compétences et en créant des écosystèmes autour de ça.
Pour créer une logique de standardisation qui parfois est compliquée à mettre en place, que vous l'avez dit, c'est dans la dentelle qu'on fait pour chaque projet.
Exactement, mais en fait cette logique de standardisation, elle doit reposer sur un socle qui est celui de la compréhension et des connaissances. Parce qu'on ne fait pas de l'architecture aujourd'hui comme on en faisait il y a 20 ans, et que ces compétences puissent s'appliquer à leur contexte géographique, à leur contexte politique aussi, pour arriver finalement à le reproduire et à massifier l'effort bas carbone. Et en disant ça, on s'en rend compte, ça a beaucoup d'inertie, ce type de plan d'action. Donc c'est de l'investissement humain et économique. C'est pour ça qu'on a besoin d'une visibilité à long terme pour pouvoir le mettre en œuvre et se lancer dedans.
On va rentrer encore plus dans le détail en parlant des outils pour structurer justement et accompagner ces acteurs de manière opérationnelle. Alors Guillaume, vous en avez cité quelques-uns hein, tout à l'heure, je pense notamment à l'ACV par exemple, donc l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment hein, qui part de la conception jusqu'à la fin de sa vie, la base Ignès aussi. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama ? Est-ce qu'on peut avoir un petit panorama justement des outils ou des méthodologies ?
Non. Non, je voulais juste revenir sur un point. On a parlé tout à l'heure dans les compétences, on a parlé d'ingénieur environnement. Ouais. Moi, ce que je vois aussi au quotidien, c'est que pour faire ces ACV, il faut des gens derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, au début, c'était les ingénieurs environnement qui faisaient les ACV. Mais maintenant, le panel de personnes qui savent faire des ACV, c'est énormément élargi. je vois là dans le groupe de travail que je mène au hub des prescripteurs bas carbone, il y a beaucoup d'économistes qui arrivent, il y a des ingénieurs façades où à la base c'est pas forcément leur métier, les architectes
et qui sont formés
et qui se forment et qui utilisent des outils. Je vois maintenant même des architectes qui, quand ils déposent le permis de construire, c'est eux qui font leur propre ACV. Et puis après, qui, quand ça commence à devenir très technique, demande à un ingénieur. Donc il y a l'humain derrière, et on n'est plus dans c'est l'ingénieur environnement ou l'ingénieur carbone qui fait ça, mais c'est un peu toute la profession, et sans même parler des industriels qui commencent à maîtriser leur FDES sous le bout des doigts, ou des promoteurs. Je discute avec des promoteurs, ils parlent de, certains parlent de carbone presque, non, même mieux que moi pour certains. Donc c'est très encourageant.
Donc ça se démocratise.
Pour revenir effectivement en France, la logique a été de dire, quand vous faites une analyse de cycle de vie, qui en fait ça revient, une analyse de cycle de vie, j'aime bien dire ça, c'est juste un chiffrage d'un bâtiment dans lequel au lieu de mettre des euros, vous mettez des kilos de CO2.
C'est une estimation.
C'est une estimation. Ouais. Et quand on dit ça, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est que finalement les promoteurs qui sont assez attachés au coût de la construction, finalement, comprennent parfois très bien le carbone, parce que le chiffrage, c'est le cœur du sujet. Et pour faire ça, on a utilisé la base INIES pour faire ce chiffrage, pour transformer les mètres cubes de ciment, de béton, d'acier, de tout ce que vous voulez, de bois. On utilise la base de données INIES, qui est un peu un trésor national, quand même, faut le dire, qui est la base la plus complète au monde, et qui est, bon an mal an, un peu autogérée, mais avec un vrai intérêt de cette base, c'est qu'il y a une vérification. C'est-à-dire que toutes les données que vous avez dans INIES, qui sont accessibles librement, et après on pourrait discuter, parce que c'est un peu compliqué, mais elle est globalement accessible librement, vous avez des informations précises sur tous les produits, et vous pouvez dire... Ce produit-là, il est très bas carbone avec des contraintes mécaniques X ou Y d'acoustique, et puis l'autre, il est un peu moins bas carbone et d'autres contraintes. Et le travail d'un architecte, d'un ingénieur et même des promoteurs qui commencent à faire ce travail-là, c'est comment je fais mon choix avec ça. Et donc, on a commencé avec peut-être une dizaine de choix. Maintenant, sur certaines catégories de produits, vous avez des centaines de choix, des centaines de fiches, les FDES, qui ne fait que décrire l'impact environnemental d'un produit.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, cette base existe depuis 20 ans.
Elle existe depuis 20 ans.
C'est une mine d'or.
C'est de l'or en barre, pour le dire de manière plus triviale.
Et juste, petite question comme ça. Moi, quand on me dit base de données, je pense à intelligence artificielle.
Alors, ça fait partie des sujets. Ouais. On a effectivement, dans les sujets qui fâchent, c'est que cette base de données, elle est accessible, mais elle n'est pas si simple que ça. L'interface accessible à tout un chacun, pour ceux qui ont le regardé, elle n'est pas extrêmement simple. Elle n'est pas tout à fait, donc après c'est un peu technique, mais elle n'est pas tout à fait compatible avec l'Aéro 2020, et ça c'est un vrai sujet de débat. Et notamment, c'était bien remarqué dans le rapport Rivaton, il y a une vraie amélioration apportée à la base INIES. Mais elle est là, elle existe, et on peut y avoir des accès complets, etc., avec toutes les données. Vraiment, c'est un trésor. Faudrait juste qu'on entretienne bien ce trésor, et que, moi j'aime bien parler du syndrome Minitel, c'est pour l'instant, on a une vraie avance sur toute l'Europe et tout le monde. Il ne faudrait pas juste que cette base, on ne puisse pas bien s'en servir.
Et donc l'exploiter avec de l'intelligence artificielle serait...
Exactement. Et derrière cette base, on peut utiliser des logiciels qui font les ACV. Et là, même chose, depuis l'Aéro 2020, il y a eu une pléthore de logiciels, de start-up qui ont lancé, que je ne vais pas citer parce que je me fâche avec personne, et qui commencent, et même certaines start-up qui ont lancé des logiciels, qui commencent à devenir des logiciels européens, qui s'internationalisent, parce que les compétences apprises ici peuvent s'installer. Et ces outils, effectivement, utilisent l'intelligence artificielle par exemple, on a certains logiciels où vous mettez un Excel fait par un ingénieur dans son coin, où il met quelques mètres cubes, et ça vous transforme ça déjà en une première ACV. Vous avez des logiciels qui permettent, vous dites j'ai un bâtiment de 3 étages, j'ai un peu de vitrage, etc., et ils vous donnent un résultat. Alors, toujours, il y a des défauts, mais,
bien sûr,
mais on peut avancer.
Ça reste des estimations.
Exactement. Et maintenant, on peut faire une ACV en 5 minutes. Vous connaissez 20 informations sur le bâtiment, vous pouvez avoir un résultat. Alors, qui sera retravaillé, etc. Mais vous pouvez extrapoler, vous voulez dire, mais je veux changer toutes mes fenêtres, mettre du verre recyclé, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc, les outils sont là, on a à peu près tout sur la table. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien raconter, c'est il y a 10 ans qu'on faisait une ACV, faire une ACV, ça vous pouvait nous prendre 3 mois. Maintenant, je vous ai dit, c'est 5 minutes pour faire une ACV. Donc,
mais t'en changes.
Voilà, donc effectivement, on aimerait effectivement ensuite avoir, alors peut-être pas un ChatGPT, un Mistral, sur lequel on puisse interroger Inès et dire à Mistral, j'ai des contraintes acoustiques, j'ai des contraintes mécaniques, j'ai envie de stocker du carbone parce que c'est important pour la planète. Est-ce que tu peux me donner un choix de matériaux et me sortir 5, 10 fiches, et idéalement avec des prix, etc.
Ce serait incroyable.
Alors, on en est pas si loin, pas loin. De ça. Hein. Franchement, la question, ça va être le coût, et puis après, c'est le coût posé, non posé, etc. Enfin, mais ça commence à être pas mal, hein, là-dessus.
On va parler de la valorisation justement avec le label bas carbone ouverte au bâtiment. Rodolphe, à ce sujet justement, quel est le bénéfice climat et diversité, biodiversité?
En fait, effectivement, au travers de la certification, il est possible d'aller chercher tout un tas de labels autres que le label B2E chez Prestataire. Le label bas carbone en fait partie. L'intérêt, c'est effectivement, c'est pour les maîtres d'ouvrage qui veulent aller toujours plus loin et qui ont la capacité de faire, c'est d'aller chercher tous ces labels qui permettent effectivement des gros gains carbone, et évidemment d'aller chercher aussi des certifications autres, mais d'aller chercher des gros gains carbone en passant par des labels très exigeants qui peuvent être par exemple le BBCA ou encore le bas carbone ou d'autres. On répond effectivement au cahier des charges de tous ces labels qui n'ont pas en fait d'accréditation et qui passent par des organismes comme nous pour pouvoir suivre le processus de certification et d'accréditation COFRAC au travers de leur référentiel. On va regarder toutes ces exigences et toutes ces contraintes, hein, parfois, qui sont demandées aux maîtres d'ouvrage, et les accompagner dès la conception. C'est tout l'intérêt, en fait, hein, c'est de les accompagner dès la conception. C'est aussi regarder les études ACV qui sont proposées. Comme disait Guillaume, on peut faire aujourd'hui des études ACV en 5 minutes. Est-ce qu'elles sont viables? On est là aussi pour garantir si tout est viable, si c'est en cohérence avec les prescriptions techniques qui sont proposées dès la conception de l'opération. Et donc les labels bas carbone ou tout autre label peuvent être intégrés directement par les certificateurs à répondre à ces cahiers des charges et apporter une certaine assurance et souplesse pour le maître d'ouvrage, parce qu'il sait qu'il passe par un tiers de confiance pour ça et qu'il aura un résultat qui sera conforme et neutre et qui lui sera attribué.
Quels sont selon vous justement les principaux défis méthodologiques ou culturels, on peut imaginer, pour généraliser l'usage de ces outils dans le secteur?
Alors, il y a deux écoles en fait, hein, pour ça. Pour les outils, on parlait de l'IA notamment. Il y a ceux qui vont y aller à fond en disant c'est un gain de temps, c'est un gain économique, c'est un gain humain. À l'arrivée, si ça me donne quelque chose de fiable ou pas, je ne serai pas trop regardant. Et puis, il y aura l'école de OK, on se sert de ces outils comme un outil support, comme un aide, comme une aide, et pour mieux encore concevoir dès l'imagination principale du montage de l'opération, pour pouvoir effectivement intégrer ce surcoût qui pourrait arriver si jamais tout n'est pas anticipé. Ces outils permettent effectivement à des bureaux d'études, aux concepteurs, de pouvoir les aider et faciliter leur travail, à la fois en analysant le côté carbone, le côté performance énergétique et autres, de façon plus simple, avec un gain de temps évidemment considérable. Mais encore une fois, il y aura ces deux écoles, ceux qui veulent aller vite ou pas. Et en tout cas, nous, on est plutôt de ceux qui vont s'aider de ces outils-là, accompagner les maîtres d'ouvrage qui s'aident de ces outils-là, mais qui veulent quand même toujours une garantie humaine et un contrôle humain derrière, même si on ne sait pas ce qu'il en sera dans 15 ans. Peut-être qu'on sera tous remplacés par l'intelligence artificielle.
J'espère
mais,
pas.
Peut-être que là, c'est d'ailleurs Inéa qui vous parle, vous ne le savez pas.
Un avatar.
Un avatar. J'aurais pris Georges Clooney quand même. Mais effectivement, donc il y aura deux écoles pour ça. Ouais. Ceux qui voudront pas le faire et ceux qui voudront s'aider par ces outils-là, mais garantir quand même que l'humain gère et contrôle tout ça derrière.
Et est-ce que ces outils, Alain, sont matures, assez matures justement pour favoriser une diffusion massive dont on parlait tout à l'heure?
Elles le deviennent de plus en plus, hein, là-dessus. Il y a un outil aussi que tu as mentionné, Rodolphe, qui est le label bas carbone. Ouais. Si j'en parle un peu plus, il permet de transformer le bas carbone. On parle beaucoup de freins depuis tout à l'heure sur le coût. Il permet de transformer ce coût en un gain. En fait, c'est pas un label immobilier, hein, c'est pas propre au secteur du bâtiment, c'est un label d'État qui a été créé en 2019 pour appuyer opérationnellement parlant la SNBC. la stratégie nationale bas carbone. Et l'idée, c'est de certifier des projets qui réduisent ou séquestrent du carbone. Et donc, à partir du moment où vous avez des bénéfices climat-carbone, vous pouvez les transformer, si vous suivez certaines méthodologies, en crédit carbone, et donc, du coup, les vendre et bénéficier d'un tiers financement. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de gains, ou les conserver pour alimenter sa trajectoire de décarbonation ou ses ambitions RSE. Donc, il y a trois méthodes qui existent aujourd'hui sur le marché. Ça date de 2019, ça a été historiquement plutôt sur des projets forestiers, agricoles, pour doubler la capacité de nos puits de carbone à l'échelle nationale. Ça fait quand même 2-3 ans que ça existe aussi à l'échelle bâtimentaire. Donc vous avez une méthode qui valorise le stockage biogénique, donc tout ce qui est stocké, tout stockage carbone dans les matériaux biosourcés. Vous avez une deuxième méthode qui valorise plutôt les émissions évitées via le réemploi, l'économie circulaire. Et une méthode qui s'appelle ville arborée, donc qui valorise plutôt les ambitions paysagères sur des projets. Donc c'est pas si nouveau que ça, ça date de 2-3 ans, mais pour le coup ça le mérite d'être un peu plus connu. Vous sortez d'une logique purement réglementaire dont on parlait tout à l'heure pour arriver vers un axe en fait de valorisation financière de vos bénéfices, que ça soit climat et biodiversité. Et d'un point de vue économique, ça peut être super intéressant pour les maîtres d'ouvrage de se renseigner aussi un peu plus sur ce label bas carbone, peut-être mal son nom, il y a une multitude de co-bénéfices qui sont derrière ce label-là, mais qui a vraiment un label d'État et qui commence à être historiquement présent sur le marché.
Alors, la table ronde touche à sa fin, même si j'aurais continué des heures à parler de ces sujets passionnants. On va conclure sur une dynamique collective à renforcer. Hein, c'est ce qu'on s'est dit un petit peu tout au long de cette table ronde, justement. Peut-être, alors chacun pourra prendre la parole, si vous aviez une recommandation prioritaire au gouvernement, parce qu'on a peu parlé des pouvoirs publics, pour accélérer la massification, quelle serait-elle ?
Je peux attaquer si vous voulez.
Allez
je lance.
Je vous sens au taquet.
Non, pour moi l'enjeu majeur, en tout cas ce qu'on sent bien, c'est que le neuf, c'est un sujet qui est cadré. Pour moi l'enjeu majeur, c'est maintenant comment on apprend à rénover bas carbone. Et qui rajoute peut-être une complexité. On dit toujours la rénovation, c'est plus compliqué que le neuf, c'est des méthodes un peu différentes. Et donc là, on a un enjeu majeur où on a bien cadré le neuf. On sait où on va, on sait globalement, et 2031, il y a peut-être des surcoûts, etc. Mais on sait où on va, c'est assez clair, s'il n'y a pas de backlash. La rénovation, par contre, pour l'instant, c'est un grand flou. Et en réalité, il y a très peu de contraintes sur la rénovation. Il y a finalement une règle, la règle énergétique, elle est un peu vieille. Donc,
il y a quand même le DPE. Après, ça concerne que les propriétaires bailleurs.
Voilà. Donc, il y a le DPE.
Ça commence.
Voilà. Et effectivement, donc le DPE arrivé. On parlait l'inconfort d'été arrive. Et donc, on a un enjeu majeur à ce parc qui est en fait la majorité de nos émissions carbone en France. C'est les consommations d'énergie liées au parc existant et accessoirement les matériaux dans le neuf, qui est en deuxième rang, mais qui est aussi important. Et donc ça, il faut qu'on le traite. Et donc on a un enjeu majeur à, de la même manière qu'il y a eu le plus et moins pour le neuf qui a permis d'expérimenter ce que ça veut dire construire neuf. On sent bien qu'on est à un moment où il faut qu'il y ait un E plus et moins de la rénovation. On commence tous ensemble à y réfléchir. Alors je le fais au quotidien, ce que j'essaie de faire, mais quand on parlait des pouvoirs publics, il y a cet enjeu à commencer à réfléchir. Et une fois que j'ai dit ça, la temporalité, on sent bien qu'entre commencer à réfléchir, aboutir à une règle, c'est pas en 6 mois. Hein, on a mis bon an mal an 8 ans à Dieu plus c'est moins.
Ça se compte en années.
Et un deuxième, c'était une question, il y a quand même un deuxième sujet, mais qu'on a déjà parlé, c'est cette équation carbone-confort, inconfort d'été, qui devient un sujet majeur. C'est on sait très bien globalement construire bas carbone, et on sait que pour l'inconfort d'été, on va avoir tendance à rajouter des protections solaires jusqu'à la clim, pourquoi pas, qui va rajouter de la matière. Et donc on a cette équation aussi à intégrer maintenant, c'est je veux faire bas carbone et je veux prendre en compte le changement climatique qui est plus que jamais présent aujourd'hui. Donc c'est une équation soluble, hein, elle n'est pas insoluble, mais il faut qu'on la prenne à bras le corps.
Voilà. Notre réaction par rapport à ça, peut-être, Alan ?
Oui, complètement. L'idée, c'était le propos liminaire, c'est de la jouer collectif, justement. C'est pas d'être solitaire, c'est de la jouer territorialement possible, de coupler en fait une conception bas carbone, une contribution, les bons outils aussi, on en a parlé. Et là, du coup, vous créez une boucle vertueuse et une vraie régénération des écosystèmes et du monde immobilier. Donc c'est plutôt de la jouer collectif avec toutes les parties prenantes et d'embarquer en fait tous les outils qui existent aujourd'hui sur le marché pour aller de l'avant.
Un petit mot peut-être sur cette coopération, cette synergie entre tous les acteurs, toutes les parties prenantes.
Je pense que pour qu'un projet bas carbone ou global réussisse, il faut que ce soit un projet en effet collectif, que chacun prenne sa part. Ça ne peut pas être simplement un acteur qui veut construire bas carbone et qui va effectuer tous les efforts, qui va les prendre pour lui pour construire bas carbone. Comme ça ne fonctionne pas. Il faut que à la base, la mairie veuille construire bas carbone, que l'aménageur veuille construire bas carbone, la région, il faut aussi que le client veuille acheter bas carbone, il faut que les entreprises qui mettent en œuvre les matériaux aient envie de travailler aussi sur des matériaux qui peuvent être innovants, qui peuvent sortir un petit peu de ce qu'ils ont l'habitude de faire. La maîtrise d'œuvre aussi, il faut qu'elle ait envie de sortir un projet qui soit bas carbone et pas juste un projet comme d'habitude le plus rapidement possible. Donc il faut que chacun s'y mette, que ce soit un projet de société. Et pour ça, on a besoin d'avoir une lisibilité et une stabilité avec un but collectif clair.
Peut-être le mot de la fin, Rodolphe.
Oui, le mot de la fin. Je rejoindrai ce qu'a dit Guillaume sur la partie rénovation, qui est le vrai cœur du sujet demain. On a beaucoup insisté sur le logement neuf. Mmh. Le logement neuf, c'est que 2% du renouvellement du parc annuel.
Et c'est une catastrophe en ce moment.
En réalité, ça ne représente pas vraiment grand-chose. L'intérêt et l'importance, elle est surtout sur le logement en rénovation. Je rejoins les propos de Guillaume. Et là où je mettrais effectivement une alerte, c'est au niveau de l'État, c'est de faire attention à ne pas rentrer dans le rétro-pédalage parce qu'on est aujourd'hui dans des contextes financiers difficiles d'un point de vue global. Parce que si on continue pas les efforts qui sont enclenchés, les investissements qui sont faits par les entreprises pour répondre à la réglementation 2025, 28, 31, parce que c'est déjà enclenché, si on fait un rétro-pédalage, la note, elle sera beaucoup plus salée encore dans 15 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. Donc c'est pas, à mon avis, le bon calcul. Et il faut donc continuer les efforts, investir les efforts sur le carbone pour le logement neuf, mais surtout passer effectivement sur la rénovation. Je sais que c'est facile à dire, parce que les modes de financement, comment on fait tout ça, c'est pas si simple que ça, mais les enjeux des 20 prochaines années, ils sont là, et il faut pas faire de rétro-pédalage.
Vous parlez de la situation économique française, est-ce que quand on voit le positionnement des États-Unis qui a fait un recul par rapport à justement au bas carbone, aux conditions climatiques, est-ce que on a du souci à se faire en France à cause de ça ?
Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, un gros pays comme les États-Unis ou la Chine ou d'autres gros États qui font marche arrière sur ça ou qui ferment les yeux...
La Chine, ils n'ont pas fait de pas en avant. Ils n'ont jamais fait de pas en avant. Mais
ça ne va pas que les concerner, eux, en fait. Ça va concerner tout le monde.
Bien sûr.
Le réchauffement climatique, il n'est pas en fonction quand un pays agit ou n'agit pas en disant « Ah, bah chez moi, il se passera ça ou il se passera ça ». C'est global.
Collectif, oui.
Et effectivement, et il risque d'y avoir un essoufflement, c'est de se dire, nous, le français, à notre échelle, petit pays, si des gros faiseurs le font pas, pourquoi est-ce qu'on irait ? Et c'est le risque.
C'est ce que des professionnels se disent, d'ailleurs.
Exactement, hein. Ouais. Oui. Et c'est le risque, et derrière, si on a un État qui suit pas ou qui n'impose pas en disant, non, on garde le cap, d'un point de vue économique, on garde le cap sur ces sujets-là. Donc voilà, je dis attention, méfiance à ça, et ne pas forcément faire les mauvais élèves que font les États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique.
Restons le bon élève. Voilà pour cette table ronde sur la construction bas carbone. On était ravis de vous apprendre tout ce qu'on s'est dit. En tout cas, merci messieurs, c'était très intéressant. Et puis nous, on se retrouve toujours en direct du CIPCA pendant 3 jours, je vous le rappelle, sur nos antennes Radio Immo, Radio Territoria.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, sur Radio Immo et Radio Territoria.